Monsieur de Bargeton était l'arrière-petit-fils d'un jurat de Bordeaux, nommé Miraut, anobli sous Louis XIII par suite d'un long exercice en sa charge. Sous Louis XIV, son fils, devenu Miraut de Bargeton, fut officier dans les gardes de la porte et fit un si grand mariage d'argent que, sous Louis XV, son fils fut appelé purement et simplement Monsieur de Bargeton. Ce Monsieur de Bargeton, petit-fils de Monsieur Miraut le Jurat, tint si fort à se conduire en parfait gentilhomme qu'il mangea tous les biens de sa famille et en arrêta la fortune. Deux de ses frères, grands-oncles du Bargeton actuel, redevinrent négociants, en sorte qu'il se trouve des Miraut dans le commerce à Bordeaux. Comme la terre de Bargeton, située en Angoumois dans la mouvance du fief de la Rochefoucauld, était substituée, ainsi qu'une maison d'Angoulême, appelée Hôtel de Bargeton, le petit-fils de Monsieur de Bargeton le Mangeur hérita de ses deux biens. En 1789, il perdit ses droits utiles et n'eut plus que le revenu de la terre qui valait environ 10 000 livres de rente. Si son grand-père eut suivi les glorieux exemples de Bargeton Ier et de Bargeton II, Bargeton V, qui peut se surnommer le Muet, aurait été marquis de Bargeton. Il se fût allié à quelques grandes familles, se serait trouvé duc et pair, comme tant d'autres. Tandis qu'en 1805, il fut très flatté d'épouser Mademoiselle Marie-Louise Anaïs de Nègrepelisse, fille d'un gentilhomme oublié depuis longtemps dans sa gentilhommière, quoiqu'il appartint à la branche cadette d'une des plus antiques familles du Midi de la France. Il y eut un Nègrepelisse parmi les otages de Saint-Louis, mais le chef de la branche aînée porte l'illustre nom d'Espard, acquis sous Henri IV par un mariage avec l'héritière de cette famille. Ce gentilhomme, cadet d'un cadet, vivait sur le bien de sa femme, petite terre située près de Barbezieux, qu'il exploitait à merveille en allant vendre son blé au marché, brûlant lui-même son vin et se moquant des railleries pourvu qu'il entassât les écus et que, de temps en temps, il pût amplifier son domaine. Des circonstances assez rares, au fond des provinces, avaient inspiré à Madame de Bargeton le goût de la musique et de la littérature. Pendant la Révolution, un abbé Niollant, le meilleur élève de l'abbé Rose, se cacha dans le petit castel d'Escarbas, en y emportant son bagage de compositeur. Il avait largement payé l'hospitalité du vieux gentilhomme en faisant l'éducation de sa fille, Anaïs, nommée Naïs par abréviation, et qui, sans cette aventure, eût été abandonnée à elle-même ou, par un plus grand malheur, à quelques mauvaises femmes de chambre. Non seulement l'abbé était musicien, mais il possédait des connaissances étendues en littérature. Il savait l'italien et l'allemand. Il enseigna donc ces deux langues et le contrepoint à Mademoiselle de Nègrepelisse. Il lui expliqua les grandes œuvres littéraires de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, en déchiffrant avec elle la musique de tous les maîtres. Enfin, pour combattre le désœuvrement de la profonde solitude à laquelle les condamnaient les événements politiques, il lui apprit le grec et le latin, et lui donna quelques teintures des sciences naturelles. La présence d'une mère ne modifia point cette mâle éducation chez une jeune personne déjà trop portée à l'indépendance par la vie champêtre. L'abbé Niollant, âme enthousiaste et poétique, était surtout remarquable par l'esprit particulier aux artistes qui comportent plusieurs prisables qualités, mais qui s'élèvent au-dessus des idées bourgeoises par la liberté des jugements et par l'étendue des aperçus. Si, dans le monde, cet esprit se fait pardonner ses témérités par son originale profondeur, il peut sembler nuisible dans la vie privée par les écarts qu'il inspire. L'abbé ne manquait point de cœur. Ses idées furent donc contagieuses pour une jeune fille chez qui l'exaltation naturelle aux jeunes personnes se trouvait corroborée par la solitude de la campagne. L'abbé Niollant communiqua sa hardiesse d'examen et sa facilité de jugement à son élève, sans songer que ces qualités si nécessaires à un homme deviennent des défauts chez une femme destinée aux humbles conditions d'une mère de famille. Quoique l'abbé recommandât continuellement à son élève d'être d'autant plus gracieuse et modeste que son savoir était plus étendu, Mademoiselle de Nègrepelisse prit une excellente opinion d'elle-même et conçut un robuste mépris pour l'humanité. Ne voyant autour d'elle que des inférieurs et des gens empressés de lui obéir, elle eut la hauteur des grandes dames, sans avoir les douces fourberies de leur politesse. Flattée dans toutes ses vanités par un pauvre abbé qui s'admirait en elle comme un auteur dans son œuvre, elle eut le malheur de ne rencontrer aucun point de comparaison qui l'aida à se juger. Le manque de compagnie est un des grands inconvénients de la vie de campagne. Faute de rapporter aux autres les petits sacrifices exigés par le maintien et la toilette, on perd l'habitude de se gêner pour autrui. Tout en nous se vicie alors la forme et l'esprit. N'étant pas réprimée par le commerce de la société, la hardiesse des idées de Mademoiselle de Nègrepelisse passa dans ses manières, dans son regard. Elle eut cet air cavalier qui paraît au premier abord original, mais qui ne sied qu'aux femmes de vie aventureuse. Ainsi, cette éducation, dont les aspérités se seraient polies dans les hautes régions sociales, devait la rendre ridicule à Angoulême, alors que ses adorateurs cesseraient de diviniser les erreurs, gracieuses pendant la jeunesse seulement. Quant à Monsieur de Nègrepelisse, il aurait donné tous les livres de sa fille pour sauver un bœuf malade, car il était si avare qu'il ne lui aurait pas accordé 2 liards au-delà du revenu auquel elle avait droit. Quand même, il lui était question de lui acheter la bagatelle la plus nécessaire à son éducation. L'abbé mourut en 1802, avant le mariage de sa chère enfant. Mariage qu'il aurait sans doute déconseillé. Le vieux gentilhomme se trouva bien empêché de sa fille quand l'abbé fut mort. Il se sentit trop faible pour soutenir la lutte qui allait éclater entre son avarice et l'esprit indépendant de sa fille inoccupée. Comme toutes les jeunes personnes sorties de la route tracée où doivent cheminer les femmes, Naïs avait jugé le mariage et s'en souciait peu. Elle répugnait à soumettre son intelligence et sa personne aux hommes sans valeur et sans grandeur personnelle qu'elle avait pu rencontrer. Elle voulait commander et devait obéir. Entre obéir à des caprices grossiers, à des esprits sans indulgence pour ses goûts, et s'enfuir avec un amant qui lui plairait, elle n'aurait pas hésité. Monsieur de Nègrepelisse était encore assez gentilhomme pour craindre une mésalliance. Comme beaucoup de pères, il se résolut à marier sa fille moins pour elle que pour sa propre tranquillité. Il lui fallait un noble ou un gentilhomme peu spirituel, incapable de chicaner sur le compte de tutelle qu'il voulait rendre à sa fille, assez nul d'esprit et de volonté pour que Naïs puisse se conduire à sa fantaisie, assez désintéressé pour l'épouser sans dot. Mais comment trouver un gendre qui convainc également au père et à la fille? Un pareil homme était le phénix des gendres. Dans ce double intérêt, Monsieur de Nègrepelisse étudia les hommes de la province, et Monsieur de Bargeton lui parut être le seul qui répondit à son programme. Monsieur de Bargeton, quadragénaire fort endommagé par les dissipations amoureuses de sa jeunesse, était accusé d'une remarquable impuissance d'esprit. Mais il lui restait précisément assez de bon sens pour gérer sa fortune, et assez de manières pour demeurer dans le monde d'Angoulême sans y commettre ni gaucherie ni sottise. Monsieur de Nègrepelisse expliqua tout crûment à sa fille la valeur négative du mari modèle qu'il lui proposait, et lui fit apercevoir le parti qu'elle en pouvait tirer pour son propre bonheur. Elle épousait des armes déjà vieilles de 200 ans. Les Bargetons et Cartels d'or à 3 massacres de cerfs de gueule, 2 et 1 croisés de 3 en contre de bœufs de sable, 1 et 2 facets d'azur et d'argent de 6 pièces, l'azur chargé de 6 coquilles d'or, 3, 2 et 1. Munie d'un chaperon, elle conduirait à son gré sa fortune à l'abri d'une raison sociale et à l'aide des liaisons que son esprit et sa beauté lui procureraient à Paris. Naïs fut séduite par la perspective d'une semblable liberté. Monsieur de Bargeton crut faire un brillant mariage, en estimant que son beau-père ne tarderait pas à lui laisser la terre qu'il arrondissait avec amour. Mais en ce moment, Monsieur de Nègrepelisse paraissait devoir écrire l'épitaphe de son gendre. Madame de Bargeton se trouvait alors âgée de 36 ans, et son mari en avait 58. Cette disparité choquait d'autant plus que Monsieur de Bargeton semblait avoir 70 ans, tandis que sa femme pouvait impunément jouer à la jeune fille, se mettre en rose ou se coiffer à l'enfant. Quoique leur fortune n'excédât pas 12 000 livres de rente, elle était classée parmi les 6 fortunes les plus considérables de la vieille ville, les négociants et les administrateurs exceptés. La nécessité de cultiver leur père, dont Madame de Bargeton attendait l'héritage pour aller à Paris, et qui le fit si bien attendre que son gendre mourut avant lui, força Monsieur et Madame de Bargeton d'habiter Angoulême, où les brillantes qualités d'esprit et les richesses brutes cachées dans le cœur de Naïs devaient se perdre sans fruit, et se changer avec le temps en ridicule. En effet, nos ridicules sont en grande partie causés par un beau sentiment, par des vertus ou par des facultés portées à l'extrême. La fierté que ne modifie pas l'usage du grand monde devient de la froideur en se déployant sur de petites choses au lieu de s'agrandir dans un cercle de sentiments élevés. L'exaltation, cette vertu dans la vertu, qui engendre les saintes, qui inspire les dévouements cachés et les éclatantes poésies, devient de l'exagération en se prenant au rien de la province. Loin du centre où brillent les grands esprits, où l'air est chargé de pensées, où tout se renouvelle, l'instruction vieillit, le goût se dénature comme une eau stagnante. Faute d'exercice, les passions se rapetissent en grandissant des choses minimes. Là est la raison de l'avarice et du commérage qui empestent la vie de province. Bientôt, l'imitation des idées étroites et des manières mesquines gagne la personne la plus distinguée. Ainsi périssent des hommes négrants, des femmes qui, redressées par les enseignements du monde et formées par les esprits supérieurs, eussent été charmantes. Madame de Bargeton prenait la lyre à propos d'une bagatelle, sans distinguer les poésies personnelles des poésies publiques. Il est en effet des sensations incomprises qu'il faut garder pour soi-même. Certes, un coucher de soleil est un grand poème, mais une femme n'est-elle pas ridicule en le dépeignant à grands mots devant des gens matériels ? Il s'y rencontre de ces voluptés qui ne peuvent se savourer qu'à deux, poète à poète, cœur à cœur. Elle avait le défaut d'employer de ces immenses phrases bardées de mots emphatiques, si ingénieusement nommées des tartines dans l'argot du journalisme qui tous les matins entaille à ses abonnés de fort peu digérables et que néanmoins ils avalent. Elle prodiguait démesurément des superlatifs qui chargeaient sa conversation où les moindres choses prenaient des proportions gigantesques. Dès cette époque, elle commençait à tout typiser, individualiser, synthétiser, dramatiser, supérioriser, analyser, poétiser, prosaïser, colossifier, angéliser, néologiser et tragiquer. Car il faut violer pour un moment la langue, afin de peindre les travers nouveaux que partagent quelques femmes. Son esprit s'enflammait d'ailleurs, comme son langage. Le dithyrambe était dans son cœur et sur ses lèvres. Elle palpitait, elle se pâmait. Elle s'enthousiasmait pour tout événement. Pour le dévouement d'une sœur grise et l'exécution des frères Fauché, pour l'ipsiboé de M. d'Arlincourt comme pour l'anaconda de Lewis, pour l'évasion de Lavalette comme pour une de ses amies qui avait mis des voleurs en fuite en faisant la grosse voix. Pour elle, tout était sublime, extraordinaire, étrange, divin, merveilleux. Elle s'animait, se courroussait, s'abattait sur elle-même, s'élançait, retombait, regardait le ciel ou la terre. Ses yeux se remplissaient de larmes. Elle usait sa vie en de perpétuelles admirations et se consumait en d'étranges dédains. Elle concevait le pacha de Janina. Elle aurait voulu lutter avec lui dans son sérail et trouver quelque chose de grand à être cousu dans un sac et jeté à l'eau. Elle enviait Lady Esther Stanhope, ce bas-bleu du désert. Il lui prenait envie de se faire sœur de Sainte-Camille et d'aller mourir de la fièvre jaune à Barcelone en soignant les malades. C'était là une grande, une noble destinée. Enfin, elle avait soif de tout ce qui n'était pas l'eau claire de sa vie cachée entre les herbes. Elle adorait Lord Byron, Jean-Jacques Rousseau, toutes les existences poétiques et dramatiques. Elle avait des larmes pour tous les malheurs et des fanfares pour toutes les victoires. Elle sympathisait avec Napoléon vaincu. Elle sympathisait avec Mehmet Ali, massacrant les tyrans de l'Égypte. Enfin, elle revêtait les gens de génie d'une auréole et croyait qu'ils vivaient de parfums et de lumière. À beaucoup de personnes, elle paraissait une folle dont la folie était sans danger. Mais certes, à quelques perspicaces observateurs, ces choses eussent semblé les débris d'un magnifique amour écroulé aussitôt que bâti, les restes d'une Jérusalem céleste, enfin l'amour sans amant. Et c'était vrai. L'histoire des 18 premières années du mariage de Madame de Bargeton peut s'écrire en peu de mots. Elle vécut pendant quelque temps de sa propre substance et d'espérances lointaines. Puis, après avoir reconnu que la vie de Paris à laquelle elle aspirait lui était interdite par la médiocrité de sa fortune, elle se prit à examiner les personnes qui l'entouraient et frémit de sa solitude. Il ne se trouvait autour d'elle aucun homme qui pût lui inspirer une de ces folies auxquelles les femmes se livrent, poussées par le désespoir que leur cause une vie sans issue, sans événement, sans intérêt. Elle ne pouvait compter sur rien, pas même sur le hasard, car il y a des vies sans hasard. Au temps où l'Empire brillait de toute sa gloire, lors du passage de Napoléon en Espagne, où il envoyait la fleur de ses troupes, les espérances de cette femme, trompées jusqu'alors, se réveillèrent. La curiosité la poussa naturellement à contempler ces héros qui conquéraient l'Europe sur un mot mis à l'ordre du jour et qui renouvelaient les fabuleux exploits de la chevalerie. Les villes les plus avaricieuses et les plus réfractaires étaient obligées de fêter la garde impériale au-devant de laquelle allaient les maires et les préfets, une harangue en bouche comme pour la royauté. Madame de Bargeton, venue à une redoute offerte par un régiment de la ville, s'éprit d'un gentilhomme, simple sous-lieutenant à qui le rusé Napoléon avait montré le bâton de maréchal de France. Cette passion contenue, noble, grande, et qui contrastait avec les passions alors si facilement nouées et dénouées, fut chastement consacrée par la main de la mort. À Wagram, un boulet de canon écrasa sur le cœur du marquis de Cantecroix le seul portrait qui attesta la beauté de Madame de Bargeton. Elle pleura longtemps ce beau jeune homme qui, en deux campagnes, était devenu colonel, échauffé par la gloire, par l'amour, et qui mettait une lettre de naïs au-dessus des distinctions impériales. La douleur jeta sur la figure de cette femme un voile de tristesse. Ce nuage ne se dissipa qu'à l'âge terrible où la femme commence à regretter ses belles années passées sans qu'elle en ait joui, où elle voit ses roses se faner, où les désirs d'amour renaissent avec l'envie de prolonger les derniers sourires de la jeunesse. Toutes ces supériorités firent plaie dans son âme au moment où le froid de la province la saisit. Comme l'hermine, elle serait morte de froid si par hasard elle se fût souillée au contact d'hommes qui ne pensaient qu'à jouer quelques sous le soir après avoir bien dîné. Sa fierté la préserva des tristes amours de la province. Entre la nullité des hommes qui l'entouraient et le néant, une femme si supérieure dut préférer le néant. Le mariage et le monde furent donc pour elle un monastère. Elle vécut par la poésie comme la carmélite vit par la religion. Les ouvrages des illustres étrangers jusqu'alors inconnus qui se publièrent de 1815 à 1821, les grands traités de M. de Bonald et ceux de M. de Maistre, ces deux aigles penseurs, enfin les œuvres moins grandioses de la littérature française qui poussa si vigoureusement ses premiers rameaux, lui embellirent sa solitude, mais l'assouplirent ni son esprit ni sa personne. Elle resta droite et forte comme un arbre qui a soutenu un coup de foudre sans en être abattu. Sa dignité se garda, sa royauté l'a rendue précieuse et quintessentielle. Comme tous ceux qui le se laissent adorer par des courtisans quelconques, elle trônait avec ses défauts. Tel était le passé de Madame de Bargeton, froide histoire, nécessaire à dire pour faire comprendre sa liaison avec Lucien qui fut assez singulièrement introduit chez elle. Pendant ce dernier hiver, il était survenu dans la ville une personne qui avait animé la vie monotone que menait Madame de Bargeton. La place de directeur des contributions indirectes étant venue à vaquer, Monsieur le Baron envoya pour l'occuper un homme de qui la destinée aventureuse plaidait assez en sa faveur pour que la curiosité féminine lui servît de passeport chez la reine du pays. Monsieur du Châtelet, venu au monde Sixte Châtelet tout court, mais qui, dès 1806, avait eu le bon esprit de se qualifier, était un de ces agréables jeunes gens qui, sous Napoléon, échappèrent à toutes les conscriptions en demeurant auprès du soleil impérial. Il avait commencé sa carrière par la place de secrétaire des commandements d'une princesse impériale. Monsieur du Châtelet possédait toutes les incapacités exigées par sa place. Bien fait, joli homme, bon danseur, savant joueur de billard, adroit à tous les exercices, médiocre acteur de société, chanteur de romance, applaudisseur de bons mots, prêt à tout, souple, envieux. Il savait et ignorait tout. Ignorant en musique, il accompagnait au piano tant bien que mal une femme qui voulait chanter par complaisance une romance apprise avec mille peines pendant un mois. Incapable de sentir la poésie, il demandait hardiment la permission de se promener pendant 10 minutes pour faire un impromptu, quelques quatrains plats comme un soufflé, et où la rime remplaçait l'idée. Monsieur du Châtelet était encore doué du talent de remplir la tapisserie dont les fleurs avaient été commencées par la princesse. Il tenait avec une grâce infinie les écheveaux de soie qu'elle dévidait, en lui disant des riens où la gravelure se cachait sous une gaze plus ou moins trouée. Ignorant en peinture, il savait copier un paysage, crayonner un profil, croquer un costume et le colorier. Enfin, il avait tous ces petits talents qui étaient de si grands véhicules de fortune dans un temps où les femmes ont eu plus d'influence qu'on ne le croit sur les affaires. Il se prétendait fort en diplomatie, la science de ceux qui n'en ont aucune et qui sont profonds par leur vide. Science d'ailleurs fort commode, en ce sens qu'elle se démontre par l'exercice même de ses hauts emplois. Que, voulant des hommes discrets, elle permet aux ignorants de ne rien dire, de se retrancher dans des hochements de tête mystérieux, et qu'enfin, l'homme le plus fort en cette science, et celui qui nage en tenant sa tête au-dessus du fleuve des événements qu'il semble alors conduire, ce qui devient une question de légèreté spécifique. Là, comme dans les arts, il se rencontre 1000 médiocrités pour un homme de génie. Malgré son service ordinaire et extraordinaire auprès de l'Altesse impériale, le crédit de sa protectrice n'avait pu le placer au Conseil d'État. Non qu'il n'eût fait un délicieux maître des requêtes comme tant d'autres, mais la princesse le trouvait mieux placé près d'elle que partout ailleurs. Cependant, il fut nommé baron Van Cassel comme envoyé extraordinaire et il parut en effet très extraordinaire. En d'autres termes, Napoléon s'en servit au milieu d'une crise comme d'un courrier diplomatique. Au moment où l'Empire tomba, le baron du Châtelet avait la promesse d'être nommé ministre en Westphalie près de Jérôme. Après avoir manqué ce qu'il nommait en une ambassade de famille, le désespoir le prit. Il fit un voyage en Égypte avec le général Armand de Morivo. Séparé de son compagnon par des événements bizarres, il avait erré pendant 2 ans de désert en désert, de tribu en tribu, captif des Arabes qui se le revendaient les uns aux autres sans pouvoir tirer le moindre parti de ses talents. Enfin, il atteignit les possessions de l'imam de Mascate, pendant que Morivo se dirigeait sur Tanger. Mais il eut le bonheur de trouver à Mascate un bâtiment anglais qui mettait à la voile et put revenir à Paris 1 an avant son compagnon de voyage. Ses malheurs récents, quelques liaisons d'ancienne date, des services rendus à des personnages alors en faveur, le recommandèrent au président du conseil qui le plaça près de Monsieur de Barante, en attendant la première direction libre. Le rôle rempli par Monsieur du Châtelet auprès de l'Altesse impériale, sa réputation d'homme à bonne fortune, les événements singuliers de son voyage, ses souffrances, tout excita la curiosité des femmes d'Angoulême. Ayant appris les mœurs de la haute ville, Monsieur le baron Sixte du Châtelet se conduisit en conséquence. Il fit le malade, joua l'homme dégoûté, blasé. À tout propos, il se prit la tête comme si ses souffrances ne lui laissaient pas un moment de relâche. Petite manœuvre qui rappelait son voyage et le rendait intéressant. Il alla chez les autorités supérieures, le général, le préfet, le receveur général et l'évêque. Mais il se montra partout poli, froid, légèrement dédaigneux comme les hommes qui ne sont pas à leur place et qui attendent les faveurs du pouvoir. Il laissa deviner ses talents de société, qui gagnèrent à ne pas être connus. Puis, après s'être fait désirer sans avoir lassé la curiosité, après avoir reconnu la nudité des hommes et savamment examiné les femmes pendant plusieurs dimanches à la cathédrale, il reconnut en Madame de Bargeton la personne dont l'intimité lui convenait. Il compta sur la musique pour s'ouvrir les portes de cet hôtel impénétrable aux étrangers. Il se procura secrètement une messe de miroir, l'étudia au piano, puis, un beau dimanche où toute la société d'Angoulême était à la messe, il extasia les ignorants en touchant l'orgue et réveilla l'intérêt qui s'était attaché à sa personne en faisant indiscrètement circuler son nom par les gens du bas clergé. Au sortir de l'église, Madame de Bargeton le complimenta, regretta de ne pas avoir l'occasion de faire de la musique avec lui. Pendant cette rencontre cherchée, il se fit naturellement offrir le passeport qu'il n'eût pas obtenu s'il le demandait. L'adroit baron va chez la reine d'Angoulême, à laquelle il rendit des soins compromettants. Ce vieux beau, car il avait 45 ans, reconnut dans cette femme toute une jeunesse à ranimer, des trésors à faire valoir, peut-être une veuve riche en espérance à épouser, enfin une alliance avec la famille des nègres polices, qui lui permettrait d'aborder à Paris la marquise d'Espard, dont le crédit pouvait lui rouvrir la carrière politique. Malgré le gui sombre et luxuriant qui gâtait ce bel arbre, il résolut de s'y attacher, de l'émonder, de le cultiver, d'en obtenir de bons fruits. L'Angoulême noble cria contre l'introduction d'un giaour dans la casbah, car le salon de Madame de Bargeton était le cénacle d'une société pure de tout alliage. L'évêque seul y venait habituellement. Le préfet y était reçu deux ou trois fois dans l'an. Le receveur général n'y pénétrait point. Madame de Bargeton allait à ses soirées, à ses concerts, et ne dînait jamais chez lui. Ne pas voir le receveur général et agréer un simple directeur des contributions, ce renversement de la hiérarchie parut inconcevable aux autorités dédaignées. Ceux qui peuvent s'initier par la pensée à des petitesses qui se retrouvent d'ailleurs dans chaque sphère sociale doivent comprendre combien l'hôtel de Bargeton était imposant dans la bourgeoisie d'Angoulême. Quant à l'Houmeau, les grandeurs de ce Louvre au petit pied, la gloire de cet hôtel de Rambouillet angoumoisin brillait à une distance solaire. Tous ceux qui s'y rassemblaient étaient les plus pitoyables esprits, les plus mesquines intelligences, les plus pauvres sires à 20 lieues à la ronde. La politique se répandait en banalités verbeuses et passionnées. La quotidienne y paraissait tiède. Louis XVIII y était traité de jacobin. Quant aux femmes, la plupart sottes et sans grâce se mettaient mal. Toutes avaient quelque imperfection qui les faussait. Rien n'y était complet, ni la conversation, ni la toilette, ni l'esprit de la chair. Sans ses projets sur Madame de Bargeton, Châtelet n'y eut pas tenu. Néanmoins, les manières et l'esprit de caste, l'air gentilhomme, la fierté du noble au petit castel, la connaissance des lois de la politesse y couvraient tout ce vide. La noblesse des sentiments y était beaucoup plus réelle que dans la sphère des grandeurs parisiennes. Il y éclatait un respectable attachement quand même aux Bourbons. Cette société pouvait se comparer, si cette image est admissible, à une argenterie de vieille forme, noircie mais pesante. L'immobilité de ses opinions politiques ressemblait à de la fidélité. L'espace mis entre elle et la bourgeoisie, la difficulté d'y parvenir, simulait une sorte d'élévation et lui donnait une valeur de convention. Chacun de ces nobles avait son prix pour les habitants comme le choriste représente l'argent chez les nègres de Bambara. Plusieurs femmes, flattées par M. du Châtelet et reconnaissant en lui des supériorités qui manquaient aux hommes de leur société, calmèrent l'insurrection des amours propres. Toutes espéraient s'approprier la succession de l'altesse impériale. Les puristes pensèrent qu'on verrait l'intrus chez Madame de Bargeton, mais qu'il ne serait reçu dans aucune autre maison. Du Châtelet essuya plusieurs impertinences, mais il se maintint dans sa position en cultivant le clergé. Puis il caressa les défauts que le terroir avait donnés à la reine d'Angoulême. Il lui apporta tous les livres nouveaux, et il lui lisait les poésies qui paraissaient. Ils s'extasiaient ensemble sur les œuvres des jeunes poètes, elle de bonne foi, lui s'ennuyant, mais prenant en patience les poètes romantiques qu'en homme de l'école impériale il comprenait peu. Madame de Bargeton, enthousiasmée de la renaissance due à l'influence d'Hélice, aimait M. de Chateaubriand de ce qu'il avait nommé Victor Hugo un enfant sublime. Triste de ne connaître le génie que de loin, elle soupirait après Paris où vivaient les grands hommes. M. du Châtelet crut alors faire merveille en lui apprenant qu'il existait à Angoulême un autre enfant sublime, un jeune poète qui, sans le savoir, surpassait en éclat le lever sidéral des constellations parisiennes. Un grand homme futur était né dans l'Houmeau. Le proviseur du collège avait montré d'admirables pièces de verre au baron. Pauvre et modeste, l'enfant était un Chatterton sans lâcheté politique, sans la haine féroce contre les grandeurs sociales qui poussa le poète anglais à écrire des pamphlets contre ses bienfaiteurs. Au milieu des 5 ou 6 personnes qui partageaient son goût pour les arts et les lettres, celui-ci, parce qu'il raclait un violon, celui-là parce qu'il tachait plus ou moins le papier blanc de quelques sépias, là en sa qualité de président de la Société d'agriculture, l'autre en vertu d'une voix de basse qui lui permettait de chanter en manière d'Alali le « Se fiato in copo avete », parmi ces figures fantasques, Madame de Bargeton se trouvait comme un affamé devant un dîner de théâtre où les mets sont en carton. Aussi, rien ne pourrait-il peindre sa joie au moment où elle apprit cette nouvelle. Elle voulut voir ce poète, cet ange. Elle en raffola, elle s'enthousiasma, elle en parla pendant des heures entières. Le surlendemain, l'ancien courrier diplomatique avait négocié par le proviseur la présentation de Lucien chez Madame de Bargeton. Vous seul, pauvres ilotes de province, pour qui les distances sociales sont plus longues à parcourir que pour les Parisiens, aux yeux desquels elles se raccourcissent de jour en jour. Vous, sur qui pèsent si durement les grilles contre lesquelles chacun des différents mondes du monde s'anathémise et se dit racain. Vous seul, comprendrez le bouleversement qui laboura la cervelle et le cœur de Lucien Chardon quand son imposant proviseur lui dit que les portes de l'hôtel de Bargeton allaient s'ouvrir devant lui. La gloire les avait fait tourner sur leurs gonds. Il serait bien accueilli dans cette maison dont les vieux pignons attiraient son regard quand il se promenait le soir à Beaulieu avec David, en se disant que leur nom ne parviendrait peut-être jamais à ses oreilles dures à la science lorsqu'elle partait de trop bas. Sa sœur fut seule initiée à ce secret. En bonne ménagère, en divine devineresse, Ève sortit quelques louis du trésor pour aller acheter à Lucien des souliers fins chez le meilleur bottier d'Angoulême, un habillement neuf chez le plus célèbre tailleur. Elle lui garnit sa meilleure chemise d'un jabot qu'elle blanchit et plissa elle-même. Quelle joie quand elle le vit ainsi vêtu! Combien elle fut fière de son frère! Combien de recommandations! Elle devina mille petites niaiseries. L'entraînement de la méditation avait donné à Lucien l'habitude de s'accouder aussitôt qu'il était assis. Il allait jusqu'à attirer une table pour s'y appuyer. Ève lui défendit de se laisser aller dans le sanctuaire aristocratique à des mouvements sans gêne. Elle l'accompagna jusqu'à la porte Saint-Pierre, arriva presque en face de la cathédrale, le regarda prenant par la rue de Beaulieu pour aller sur la promenade où l'attendait Monsieur du Châtelet. Puis, la pauvre fille demeura tout émue, comme si quelque grand événement se fût accompli. Lucien chez Madame de Bargeton, c'était pour Ève l'aurore de la fortune. La sainte créature, elle ignorait que là où l'ambition commence, les naïfs sentiments cessent. En arrivant dans la rue du Minage, les choses extérieures n'étonnèrent point Lucien. Ce Louvre, tant agrandi par ses idées, était une maison bâtie en pierre tendre particulière au pays et dorée par le temps. L'aspect assez triste sur la rue était intérieurement fort simple. C'était la cour de province, froide et proprette, une architecture sobre, quasi monastique, bien conservée. Lucien monta par un vieil escalier à balustres de châtaignier dont les marches cessaient d'être en pierre à partir du premier étage. Après avoir traversé une antichambre mesquine, un grand salon peu éclairé, il trouva la souveraine dans un petit salon lambrissé de boiseries sculptées dans le goût du dernier siècle et peintes en gris. Le dessus des portes était en camaïeu. Un vieux damas rouge, maigrement accompagné, décorait les panneaux. Les meubles de vieille forme se cachaient piteusement sous des housses à carreaux rouges et blancs. Le poète aperçut Madame de Bargeton assise sur un canapé à petits matelas piqués, devant une table ronde couverte d'un tapis vert, éclairée par un flambeau de vieille forme à deux bougies et à garde-vue. La reine ne se leva point. Elle se tortilla fort agréablement sur son siège, en souriant au poète que ce trémoussement serpentin émut beaucoup. Il le trouva distingué. L'excessive beauté de Lucien, la timidité de ses manières, sa voix, tout en lui saisit Madame de Bargeton. Le poète était déjà à la poésie. Le jeune homme examina, par de discrètes œillades, cette femme qui lui parut en harmonie avec son renom. Elle ne trompait aucune de ses idées sur la grande dame. Madame de Bargeton portait, suivant une mode nouvelle, un béret tailladé en velours noir. Cette coiffure comporte un souvenir du Moyen-Âge qui en impose à un jeune homme en amplifiant pour ainsi dire la femme. Il s'en échappait une folle chevelure d'un blond rouge, dorée à la lumière, ardente au contour des boucles. La noble dame avait le teint éclatant par lequel une femme rachète les prétendus inconvénients de cette fauve couleur. Ses yeux gris étincelés, son front déjà ridé les couronnait bien par sa masse blanche hardiment taillée. Ils étaient cernés par une marge nacrée où, de chaque côté du nez, deux veines bleues faisaient ressortir la blancheur de ce délicat encadrement. Le nez offrait une courbure bourbonienne qui ajoutait au feu d'un visage long en présentant comme un point brillant où se peignait le royal entraînement des Condés. Les cheveux ne cachaient pas entièrement le cou. La robe, négligemment croisée, laissait voir une poitrine de neige où l'œil devinait une gorge intacte et bien placée. de ses doigts effilés et soignés, mais un peu secs, Madame de Bargeton fit au jeune poète un geste amical pour lui indiquer la chaise qui était près d'elle. Monsieur du Châtelet prit un fauteuil. Lucien s'aperçut alors qu'ils étaient seuls. La conversation de Madame de Bargeton enivra le poète de l'Houmeau. Les 3 heures passées près d'elle furent pour Lucien un de ces rêves que l'on voudrait rendre éternels. Il trouva cette femme plutôt maigrie que maigre, amoureuse sans amour, maladive malgré sa force. Ses défauts, que ses manières exagérées lui plurent, car les jeunes gens commencent par aimer l'exagération, ce mensonge des belles âmes. Il ne remarqua point la flétrissure des joues couperosées sur les pommettes, et auxquelles les ennuis et quelques souffrances avaient donné des tons de brique. Son imagination s'empara d'abord de ses yeux de feu, de ses boucles éclatantes où ruisselait la lumière, de cette éclatante blancheur, point lumineux auquel il se prit comme un papillon aux bougies. Puis, cette âme parla trop à la sienne pour qu'il pût juger la femme. L'entrain de cette exaltation féminine, la verve des phrases un peu vieilles que répétait depuis longtemps Madame de Bargeton, mais qui lui parurent neuves, le fascinèrent d'autant mieux qu'il voulait trouver tout bien. Il n'avait point apporté de poésie à lire, mais il n'en fut pas question. Il avait oublié ses vers pour avoir le droit de revenir. Madame de Bargeton n'en avait point parlé pour l'engager à lui faire quelques lectures un autre jour. N'était-ce pas une première entente? Monsieur Six du Châtelet fut mécontent de cette réception. Il aperçut tardivement un rival dans ce beau jeune homme, qu'il reconduisit jusqu'au détour de la première rampe en dessous de Beaulieu, dans le dessein de le soumettre à sa diplomatie. Lucien ne fut pas médiocrement étonné d'entendre le directeur des contributions indirectes se vantant de l'avoir introduit et lui donnant à ce titre des conseils. Plût à Dieu qu'il fût mieux traité que lui, disait Monsieur du Châtelet. La cour était moins impertinente que cette société de ganaches. On y recevait des blessures mortelles. On y essuyait d'affreux dédains. La révolution de 1789 recommencerait si ces gens-là ne se réformaient pas. Quant à lui, s'il continuait d'aller dans cette maison, c'était par goût pour Madame de Bargeton, la seule femme un peu propre qu'il y eut à Angoulême, à laquelle il avait fait la cour par désœuvrement et de laquelle il était devenu follement amoureux. Il allait bientôt la posséder. Il était aimé. Tout le lui présageait. La soumission de cette reine orgueilleuse serait la seule vengeance qu'il tirerait de cette sotte maisonnée de Hobereau. Châtelet exprima sa passion en homme capable de tuer un rival s'il en rencontrait un. Le vieux papillon impérial tomba de tout son poids sur le pauvre poète en essayant de l'écraser sous son importance et de lui faire peur. Il se grandit en racontant les périls de son voyage grossi. Mais s'il imposa à l'imagination du poète, il n'effraya point l'amant. Depuis cette soirée, nonobstant le vieux fat, malgré ses menaces et sa contenance de spadassin bourgeois, Lucien était revenu chez Madame de Bargeton. D'abord avec la discrétion d'un homme de l'Houmeau, puis il se familiarisa bientôt avec ce qui lui avait paru d'abord une énorme faveur et vint la voir de plus en plus souvent. Le fils d'un pharmacien fut pris par les gens de cette société pour un être sans conséquence. Dans les commencements, si quelque gentilhomme ou quelque femme venue en visite chez Naïs rencontrait Lucien, tous avaient pour lui l'accablante politesse dont usent les gens comme il faut avec leurs inférieurs. Lucien trouva d'abord ce monde fort gracieux, mais plus tard il reconnut le sentiment d'où procédaient ces fallacieux égards. Bientôt, et il surprit quelques airs protecteurs qui remuèrent son fiel et le confirmèrent dans les haineuses idées républicaines par lesquelles beaucoup de ses futurs patriciens préludent avec la haute société. Mais combien de souffrances n'aurait-il pas enduré pour Naïs qu'il entendait nommer ainsi, car entre eux, les intimes de ce clan, de même que les grands d'Espagne et les personnages de la crème à Vienne, s'appelaient, hommes et femmes, par leur petit nom, dernière nuance inventée pour mettre une distinction au cœur de l'aristocratie angoumoisine. Naïs fut aimé comme tout jeune homme aime la première femme qui le flatte. Car Naïs pronostiquait un grand avenir, une gloire immense à Lucien. Madame de Bargeton usa de toute son adresse pour établir chez elle son poète. Non seulement elle l'exaltait outre mesure, mais elle le représentait comme un enfant sans fortune qu'elle voulait placer. Elle le rapetissait pour le garder. Elle en faisait son lecteur, son secrétaire. Mais elle aimait plus qu'elle ne croyait pouvoir aimer après l'affreux malheur qui lui était advenu. Elle se traitait fort mal intérieurement. Elle se disait que ce serait une folie d'aimer un jeune homme de 20 ans, qui, par sa position, était déjà si loin d'elle. Ses familiarités étaient capricieusement démenties par les fiertés que lui inspiraient ses scrupules. Elle se montrait tour à tour altière et protectrice, tendre et flatteuse. D'abord intimidée par le haut rang de cette femme, Lucia eut donc toutes les terreurs, les espoirs et les désespérances qui martèlent le premier amour et le mettent si avant dans le cœur par les coups que frappent alternativement la douleur et le plaisir. Pendant 2 mois, il vit en elle une bienfaitrice qui allait s'occuper de lui maternellement. Mais les confidences commencèrent. Madame de Bargeton appela son poète « cher Lucien », puis « cher » tout court. Le poète enhardi nomma cette grande dame Naïs. En l'entendant lui donner ce nom, elle eut une de ces colères qui séduisent tant un enfant. Elle lui reprocha de prendre le nom dont se servait tout le monde. La fière et noble Nègrepelisse offrit à ce bel ange celui de ses noms qui se trouvait encore neuf. Elle voulut être Louise pour lui. Lucien atteignit au troisième ciel de l'amour. Un soir, Lucien étant entré pendant que Louise contemplait un portrait qu'elle serrait promptement, il voulut le voir. Pour calmer le désespoir d'un premier accès de jalousie, Louise montra le portrait du jeune Cantecroix et raconta, non sans larmes, la douloureuse heureuse histoire de ses amours, si purs et si cruellement étouffés. S'essayait-elle à quelque infidélité envers son mort, ou avait-elle inventé de faire à Lucien un rival de ce portrait? Lucien était trop jeune pour analyser sa maîtresse. Il se désespéra naïvement, car elle ouvrit la campagne pendant laquelle les femmes font battre en brèche des scrupules plus ou moins ingénieusement fortifiés. Leurs discussions sur les devoirs, sur les convenances, sur la religion, sont comme des places fortes qu'elles aiment à voir prendre d'assaut. L'innocent Lucien n'avait pas besoin de ces coquetteries. Il eût guerroyé tout naturellement. « Je ne mourrai pas, moi. Je vivrai pour vous. » dit audacieusement un soir Lucien, qui voulut en finir avec Monsieur de Sainte-Croix, et qui jeta sur Louise un regard où se peignait une passion arrivée à terme. Effrayée des progrès que ce nouvel amour faisait chez elle et chez son poète, elle lui demanda les vers promis pour la première page de son album, en cherchant un sujet de querelle dans le retard qu'il mettait à les faire. Que devint-elle en lisant les 2 stances suivantes, qu'elle trouva naturellement plus bêtes que les meilleures du poète de l'aristocratie, Canalis ? Le magique pinceau, les muses mensongères, n'orneront pas toujours de mes feuilles légères le fidèle velin. Et le crayon furtif de ma belle maîtresse me confiera souvent sa secrète allégresse ou son muet chagrin. Ah, quand ses doigts plus lourds à mes pages fanées demanderont raison des riches destinées que lui tient l'avenir, alors veuille l'amour que de ce beau voyage le fécond souvenir soit doux à contempler comme un ciel sans nuages. « Est-ce bien moi qui vous les ai dictées ?» dit-elle. Ce soupçon, inspiré par la coquetterie d'une femme qui se plaisait à jouer avec le feu, fit venir une larme aux yeux de Lucien. Elle le calma en le baisant au front pour la première fois. Lucien fut décidément un grand homme qu'elle voulut former. Elle imagina de lui apprendre l'italien et l'allemand, de perfectionner ses manières. Elle trouva là des prétextes pour l'avoir toujours chez elle, à la barbe de ses ennuyeux courtisans. Quel intérêt dans sa vie ! Elle se remit à la musique pour son poète à qui elle révéla le monde musical. Elle lui joua quelques beaux morceaux de Beethoven et le ravit. Heureux de sa joie, elle lui disait hypocritement en le voyant à demi pâmé : « Ne peut-on pas se contenter de ce bonheur ?» Le pauvre poète avait la bêtise de répondre « Oui ». Enfin, les choses arrivèrent à un tel point que Louise avait fait dîner Lucien avec elle dans la semaine précédente, entière avec Monsieur de Bargeton. Malgré cette précaution, toute la ville sut le fait et le tint pour si exorbitant que chacun se demanda s'il était vrai. Ce fut une rumeur affreuse. À plusieurs, la société parut à la veille d'un bouleversement. D'autres s'écrièrent « Voilà le fruit des doctrines libérales !» Le jaloux du Châtelet apprit alors que Madame Charlotte, qui gardait les femmes en couche, était Madame Chardon, mère du Châteaubriand de Loumeau, disait-il. Cette expression passa pour un bon mot. Madame de Chandour accourut la première chez Madame de Bargeton. Savez-vous, chère Naïs, ce dont tout Angoulême parle ? Lui dit-elle. Ce petit poète Rio a pour mère Madame Charlotte, qui gardait il y a 2 mois ma belle-sœur en couche. Ma chère, dit Madame de Bargeton en prenant un air tout à fait royal, qu'y a-t-il d'extraordinaire à ceci ? N'est-elle pas la veuve d'un apothicaire ? Une pauvre destinée pour une demoiselle de Rubempré ? Supposons-nous sans un sous-vaillant ? Que ferions-nous pour vivre, nous ? Comment nourririez-vous vos enfants ? Le sang-froid de Madame de Bargeton tua les lamentations de la noblesse. Les âmes grandes sont toujours disposées à faire une vertu d'un malheur. Puis, dans la persistance à faire un bien qu'on incrimine, il se trouve d'invincibles attraits. L'innocence a le piquant du vice. Dans la soirée, le salon de Madame de Bargeton fut plein de ses amis venus pour lui faire des remontrances. Elle déploya toute la causticité de son esprit. Elle dit que si les gentilshommes ne pouvaient être ni Molière, ni Racine, ni Rousseau, ni Voltaire, ni Massillon, ni Beaumarchais, ni Diderot, il fallait bien accepter les tapissiers, les horlogers et les couteliers dont les enfants devenaient des grands hommes. Elle dit que le génie était toujours gentilhomme. Elle gourmanda les hauts bureaux sur le peu d'entente de leurs vrais intérêts. Enfin, elle dit beaucoup de bêtises qui auraient éclairé des gens moins niais, mais ils en firent honneur à son originalité. Elle conjura donc l'orage à coups de canon. Quand Lucien, mandé par elle, entra pour la première fois dans le vieux salon fané où l'on jouait au whist à quatre tables, elle lui fit un gracieux accueil et le présenta en reine qui voulait être obéie. Elle appela le directeur des contributions, M. Châtelet, et le pétrifia en lui faisant comprendre qu'elle connaissait l'illégale superfétation de sa particule. Lucien fut dès ce soir violemment introduit dans la société de Madame de Bargeton. Mais il y fut accepté comme une substance vénéneuse que chacun se promit d'expulser en la soumettant au réactif de l'impertinence. Malgré ce triomphe, Naïs perdit de son empire. Il y eut des dissidents qui tentèrent d'émigrer. Par le conseil de M. Châtelet, Amélie, qui était Madame de Chandour, résolut d'élever hôtel contre hôtel en recevant chez elle les mercredis. Madame de Bargeton ouvrait son salon tous les soirs, et les gens qui venaient chez elle étaient si routiniers, si bien habitués à se retrouver devant les mêmes tapis, à jouer au même tric-trac, à voir les gens, les flambeaux, à mettre leurs manteaux, leurs doubles souliers, leurs chapeaux dans le même couloir, qu'ils aimaient les marches de l'escalier autant que la maîtresse de la maison. Tous se résignèrent à subir le chardonneret du sacré bocage, dit Alexandre de Brébian, autre beau mot. Enfin, le président de la Société d'agriculture apaisa la sédition par une observation magistrale. Avant la Révolution, dit-il, les plus grands seigneurs recevaient Duclos, Grimm, Crébillon, tous gens qui, comme ce petit poète de Loumeau, étaient sans conséquence. Mais ils n'admettaient point les recevoir des tailles, ce qu'est, après tout, Châtelet. Du Châtelet paya pour Chardon. Chacun lui marqua de la froideur. En se sentant attaqué, le directeur des contributions, qui, depuis le moment où elle l'avait appelé Châtelet, s'était juré à lui-même de posséder Madame de Bargeton, entra dans les vues de la maîtresse du logis. Il soutint le jeune poète en se déclarant son ami. Ce grand diplomate, dont s'était si maladroitement privé l'empereur, caressa Lucien. Il se dit son ami. Pour lancer le poète, il donna un dîner où se trouvèrent le préfet, le receveur général, le colonel du régiment en garnison, le directeur de l'école de marine, le président du tribunal, enfin, toutes les sommités administratives. Le jeune poète fut fêté si grandement que tout autre que jeune homme de 22 ans aurait véhémentement soupçonné de mystification les louanges au moyen desquelles on abusa de lui. Au dessert, Châtelet fit réciter à son rival une ode de Sardanapale mourant, le chef-d'œuvre du moment. En l'entendant, le proviseur du collège, homme flegmatique, battit des mains en disant que Jean-Baptiste Rousseau n'avait pas mieux fait. Le baron Sixte Châtelet pensa que le petit rimeur crèverait tôt ou tard dans la serre chaude des louanges, ou que, dans l'ivresse de sa gloire anticipée, il se permettrait quelques impertinences qui le feraient rentrer dans son obscurité primitive. En attendant le décès de ce génie, il parut immoler ses prétentions aux pieds de Madame de Bargeton. Mais avec l'habileté des roués, il avait arrêté son plan et suivi avec une attention stratégique la marche des deux amants en épiant l'occasion d'exterminer Lucien. Il se leva dès lors dans Angoulême et dans les environs un bruit sourd qui proclamait l'existence d'un grand homme en Angoumois. Madame de Bargeton était généralement louée pour les soins qu'elle prodiguait à ce jeune aigle. Une fois sa conduite approuvée, elle voulut obtenir une sanction générale. Elle tambourina dans le département une soirée à glace, à gâteau et à thé. Une grande innovation dans une ville où le thé se vendait encore chez les apothicaires comme une drogue employée contre les indigestions. La fleur de l'aristocratie fut conviée pour entendre une grande œuvre que devait lire Lucien. Louise avait caché les difficultés vaincues à son ami, mais elle lui toucha quelques mots de la conjuration formée contre lui par le monde, car elle ne voulait pas lui laisser ignorer les dangers de la carrière que doivent parcourir les hommes de génie et où se rencontrent les obstacles infranchissables au courage médiocre. Elle fit de cette victoire un enseignement. De ses blanches mains, elle lui montra la gloire achetée par des continuels supplices. Elle lui parla du bûcher des martyrs à traverser. Elle lui beurra ses plus belles tartines et les panacha de ses plus pompeuses expressions. Ce fut une contrefaçon des improvisations qui déparent le roman de Corinne. Louise se trouva si grande par son éloquence qu'elle aima davantage le Benjamin qu'elle lui inspirait. Elle lui conseilla de répudier audacieusement son père en prenant le noble nom de Rubempré, sans se soucier des criailleries soulevées par un échange que d'ailleurs le roi légitimerait. Apparentée à la marquise d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry, forte en crédit à la cour, elle se chargeait d'obtenir cette faveur. À ces mots, le roi, la marquise d'Espard, la cour, Lucien vit comme un feu d'artifice et la nécessité de ce baptême lui fut prouvée. « Cher petit, lui dit Louise d'une voix tendrement moqueuse, plus tôt il se fera, plus vite il sera sanctionné. » Elle souleva l'une après l'autre les couches successives de l'état social et fit compter au poète les échelons qu'il franchissait soudain par cette habile détermination. En un instant, elle fit abjurer à Lucien ses idées populacières sur les chimériques égalités de 1793. Elle réveilla chez lui la soif des distinctions que la froide raison de David avait calmée. Elle lui montra la haute société comme le seul théâtre sur lequel il devait se tenir. Le haineux libéral devint monarchique in petto. Lucien mordit à la pomme du luxe aristocratique et de la gloire. Il jura d'apporter au pied de sa dame une couronne, fut-elle ensanglantée. Il la conquerrait à tout prix, quibus cum quivis. Pour prouver son courage, il raconta ses souffrances actuelles qu'il avait cachées à Louise, conseillé par cette indéfinissable pudeur attachée au premier sentiment et qui défend au jeune homme d'étaler ses grandeurs quand il aime avoir apprécié son âme dans son incognito. Il peignit les étreintes d'une misère supportée avec orgueil, ses travaux chez David, ses nuits employées à l'étude. Cette jeune ardeur rappela le colonel de 26 ans à Madame de Bargeton, dont le regard s'amollit. En voyant la faiblesse gagner son imposante maîtresse, Lucien prit une main qu'on lui laissa prendre et la baisa avec la furie du poète, du jeune homme, de l'amant. Louise alla jusqu'à permettre au fils de l'apothicaire d'atteindre à son front et d'y imprimer ses lèvres palpitantes. « Enfant, enfant, si l'on nous voyait, je serais bien ridicule !» dit-elle en se réveillant d'une torpeur extatique. Pendant cette soirée, l'esprit de Madame de Bargeton fit de grands ravages dans ce qu'elle nommait les préjugés de Lucien. À l'entendre, les hommes de génie n'avaient ni frère, ni sœur, ni père, ni mère. Les grandes œuvres qu'ils devaient édifier leur imposaient un apparent égoïsme en les obligeant de tout sacrifier à leur grandeur. Si la famille souffrait d'abord des dévorantes exactions perçues par un cerveau gigantesque, plus tard, elle recevrait au centuple le prix des sacrifices de tout genre exigés par les premières luttes d'une royauté contrariée en partageant les fruits de la victoire. Le génie ne relevait que de lui-même. Il était seul juge de ses moyens, car lui seul connaissait la fin. Il devait donc se mettre au-dessus des lois, appelé qu'il était à les refaire. D'ailleurs, qui s'empare de son siècle peut tout prendre, tout risquer, car tout est à lui. Elle citait les commencements de la vie de Bernard de Palissy, de Louis XI, de Fox, de Napoléon, de Christophe Colomb, de César, de tous les illustres joueurs, d'abord criblés de dettes ou misérables, incompris, tenus pour fous, pour mauvais fils, mauvais père, mauvais frère, mais qui plus tard devenaient l'orgueil de la famille, du pays, du monde. Ces raisonnements abondaient dans les vices secrets de Lucien et avançaient la corruption de son cœur, car, dans l'ardeur de ses désirs, il admettait les moyens a priori. Mais ne pas réussir est un crime de lèse-majesté sociale. Invaincu, n'a-t-il pas alors assassiné toutes les vertus bourgeoises sur lesquelles repose la société, qui chasse avec horreur les Marius assis devant leur ruine? Lucien, qui ne se savait pas entre la famille des bagnes et les palmes du génie, planait sur le Sinaï des prophètes sans voir, au bas, la mer morte, l'horrible suaire de Gomorre. Louise débrida si bien le cœur et l'esprit de son poète des langes dont les avait enveloppés la vie de province, que Lucien voulut éprouver Madame de Bargeton, afin de savoir s'il pouvait, sans éprouver la honte d'un refus, conquérir cette haute proie. La soirée annoncée lui donna l'occasion de tenter cette épreuve. L'ambition se mêlait à son amour. Il aimait et voulait s'élever, double désir bien naturel chez les jeunes gens qui ont un cœur à satisfaire et l'indigence à combattre. En conviant aujourd'hui tous ses enfants à un même festin, la société réveille leurs ambitions dès le matin de la vie. Elle destitue la jeunesse de ses grâces et vicie la plupart de ses sentiments généreux en y mêlant des calculs. La poésie voudrait qu'il en fût autrement. Mais le fait bien trop souvent démentir la fiction à laquelle on voudrait croire pour qu'on puisse se permettre de représenter le jeune homme autrement qu'il est au XIXe siècle. Le calcul de Lucien lui parut fait au profit d'un beau sentiment, de son amitié pour David.